Laudetur Jesus Christus.
Ce qui devait être une nouvelle distribution alimentaire de la Gaza Humanitarian Foundation, pilotée et financée par les États-Unis et Israël, s'est une fois de plus transformée en massacre ce matin. Au moins 51 personnes ont été tuées à Khan Younes. Cinquième jour d'affrontement entre Israël et l'Iran, une pluie de missiles dans un camp et l'autre en Iran. L'armée vise en particulier les installations militaires et nucléaires, un site est particulièrement déterminant, celui de Fordo, c'est ce que nous verrons. Dans ce journal, nous irons aussi en Grèce, où les cheminots se sont mis en grève, et aux États-Unis, les évêques américains apportent leur soutien aux immigrés dans le viseur de l'administration américaine, notamment à Los Angeles.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Ils sont prêts à tout et même à mourir pour récupérer de quoi vivre. Énième tragédie dans le sud de la bande de Gaza, alors que des milliers de Palestiniens s'étaient rassemblés près d'un centre de distribution d'aide, des drones, appuyés bientôt par des chars, se seraient mis à tirer sur la foule, faisant au moins 51 morts, la correspondance de Valérie Ferron.
Depuis la mise en place des sites de distribution de colis alimentaires par la société privée créée par Israël et les États-Unis, chaque jour les mêmes scènes se répètent. Des dizaines de milliers de civils affamés attendent pendant des heures près des sites en espérant obtenir un peu de nourriture. L'armée israélienne ouvre le feu, faisant des morts et des blessés. Ce matin, plus de 50 personnes ont ainsi été tuées et plus de 300 autres blessées près d'un site de distribution dans le sud de la bande de Gaza, témoigne d'un survivant.
Il y avait environ 50 000 personnes. Ils ont lancé deux bombes en plein milieu de la foule.
L'hôpital Nasser à Tibi, dans la ville de Khan Younes, ainsi que les hôpitaux de campagne, sont incapables de faire face à l'afflux massif de blessés. La situation est d'autant plus désespérée que les familles n'ont pas d'autre choix que de se rendre sur ces sites de distribution pour tenter de se nourrir. Israël maintenant son blocus, ce qui empêche l'aide humanitaire internationale gérée par les Nations Unies d'entrer dans la bande de Gaza depuis le 2 mars dernier. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Après le massacre de ce matin, l'armée israélienne a dit examiner les faits. Et puis à Gaza seul, 17 des 39 hôpitaux fonctionnent encore au sud et au centre de l'enclave, mais sans entrée de carburant depuis 100 jours. Le système de santé est un point de rupture, prévient ce soir l'OMC. Une terre, ses habitants, celle de Gaza, qui ne doivent pas être oubliés. C'est ce que demande ce soir le père Romanelli, le curé de la Sainte Famille de Gazaville. Car Israël est désormais en état d'alerte. Des sirènes ont retenti dans la région de Tel Aviv, où un centre du Mossad aurait été visé ce matin. Alarme également cet après-midi dans des zones du nord du pays. Téhéran tente de porter des coups sérieux à l'État hébreu, dont l'armée frappe son sol sans relâche depuis 5 jours maintenant. Ce mardi, Tsahal a affirmé avoir mené des frappes de grande envergure sur des dizaines de sites de stockage et de lancement de missiles. Depuis le début de l'offensive israélienne, le complexe militaro-industriel de l'Iran semble être la cible prioritaire, a commencé par son programme nucléaire. Plusieurs sites ont été particulièrement détruits, comme à Natanz, dans la province d'Ipahan. Mais les regards se tournent aussi bien sûr vers l'usine d'enrichissement d'uranium de Fordo, la seconde du pays, qui est enterrée dans la montagne, d'où son rôle stratégique. C'est ce que nous rappelle Benjamin Hautecouverture, directeur de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique à Paris.
Ce qui est à Fordo est clandestin, est enfoui, c'est ce que le monde entier aimerait savoir. On sait que c'est dans la montagne, on sait que c'est enfoui, on sait que ce n'est pas facile d'accès, et que ça a été créé uniquement pour cela, c'est-à-dire en prévention des bombardements à venir israéliens. Donc il n'y a pas de raison de penser que ces gens-là ne savent pas protéger ce qu'ils doivent protéger à tout prix. Ça veut dire que ce qui est détruit, parce qu'ils n'ont pas de défense antiaérienne efficace, les Iraniens, donc on peut tout à fait penser que ce qui affleure a été détruit par l'aviation aérienne, mais ce qui a été détruit doit pouvoir se reconstruire. Et on est toujours à ce moment-là dans un scénario qui consiste pour les Israéliens à retarder la progression du programme. En revanche, des installations comme celle de Fordo, ces installations-là ne peuvent pas être touchées comme cela. Elles sont faites précisément pour cette raison. Par conséquent, là, il ne s'agirait pas de retarder, il s'agirait de démanteler de la totalité du programme. On peut se poser la question de savoir si ce n'est pas l'objectif réel de ce qui a commencé entre le 12 et le 13 juin.
Les propos recueillis par Olivier Bonnel. L'Iran est ce soir privé d'Internet. Les dernières informations faisaient état de queues kilométriques aux stations-service de la capitale, Téhéran bombardée de l'essence dans l'espoir parfois de fuir. Fuir l'Iran, c'est par voie terrestre. C'est l'appel lancé également par la Chine à ses ressortissants. La Thaïlande s'organise également, tandis que plus de 700 étrangers d'une quinzaine de pays ont déjà été évacués de l'Iran vers l'Azerbaïdjan. Il veut la fin réelle de la guerre et non un simple cessez-le-feu. Mais que fera-t-il pour aider les belligérants à l'obtenir ? Le président américain entretient le flou sur ses intentions. Il a quitté hier précipitamment le sommet du G7 au Canada pour rejoindre la salle de crise ce matin de la Maison-Blanche. En tout cas, au Vatican, le secrétaire d'État a affirmé que le Saint-Siège appelait de ses voeux un désarmement nucléaire qui serait mené pacifiquement et par le dialogue et la négociation. Allié à l'Iran et sans doute inquiète, la Russie a proposé sa médiation, notant cependant des réticences côté israélien. Une proposition de médiation raillée par la France aujourd'hui qui propose à Moscou de commencer par faire la paix en Ukraine. Car en Ukraine, la nuit dernière, 10 personnes, dont un Américain, ont péri à Kiev dans l'une des pires attaques russes contre la capitale. L'armée russe a reconnu une salve d'attaque, mais visant des infrastructures militaires proches de la capitale. L'Allemagne, le Canada aussi promettent une pression accrue sur Moscou après les raids de la nuit dernière. Une politique toute européenne, comme vient d'illustrer deux déclarations de la Commission à Bruxelles. Elle a détaillé les étapes fixées en vue d'interdire les importations de gaz russe dans l'UE d'ici à la fin 2027. La Commission a également promis de simplifier les procédures pour accélérer le réarmement de l'Europe. Aucun train en circulation ce mardi en Grèce. Les cheminots sont en grève. Ils réclament l'amélioration de la sécurité des trains. Un sujet ultra sensible depuis la collision de deux trains en 2023. Alexia Kefalas.
La grève de 24 heures des cheminots grecs a été l'une des plus suivies de ces derniers temps. Leur requête est pourtant la même depuis deux ans, l'amélioration de la sécurité des trains. Un sujet qui fait mal et pour cause, le rail grec n'a pas été rénové ou même amélioré depuis la pire collision meurtrière qu'ait connue le pays en février 2023. Elle avait fait 57 morts, dont beaucoup d'étudiants, sur la ligne reliant Athènes à Thessalonique, deuxième ville du pays. Depuis, le syndicat des cheminots réclame l'installation immédiate d'un système de protection des trains et l'augmentation des dépenses pour moderniser le réseau ferroviaire toujours aussi vétuste. Aujourd'hui, ils étaient des dizaines à scander leur détresse devant la Voulie, le Parlement grec, et se sont donné rendez-vous au même endroit demain, alors que doit être adoptée par les députés l'éventuelle ouverture d'une enquête visant de hauts responsables au moment de cette tragédie ferroviaire. En avril dernier, pour répondre à la vague massive de grèves et de manifestations dénonçant les défaillances chroniques du réseau ferroviaire, Kyriakos Mitsotakis, le Premier ministre conservateur, avait assuré qu'une mise à niveau drastique des services ferroviaires et de la sécurité était en cours. Mais rien n'est visible encore aujourd'hui. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
Depuis 10 jours, la ville américaine de Los Angeles est en proie à de vastes manifestations contre la politique de déportation massive de l'administration Trump. Les manifestations se sont étendues à d'autres villes. Elles avaient débuté en réponse aux raids menés à LA par des agents des services américains de l'immigration et des douanes. C'est dans ce contexte que le président de la conférence des évêques des États-Unis s'est adressé aux communautés touchées par l'escalade des mesures de répression. Monseigneur Timothy Brelieu a lancé un message d'amour, de solidarité à leur égard.
La situation manque de sécurité pour ces personnes parce que tout le monde qui est ici, peut-être pas avec les papiers nécessaires, mais qui quand même sont au travail et qui paient les impôts, se trouve maintenant dans une situation de manque de sécurité presque totale parce qu'on ne sait dans l'avenir ce qui va passer. Et ainsi, il faut donner de l'espoir, mais aussi nous avons les procédures et les droits qu'on doit respecter. Ces décisions de la part des autorités civiles, presque on n'a pas la possibilité de répondre. C'est une situation très préoccupante. Je voudrais lancer le message du Christ qu'il faut accueillir l'étranger. Nous devons voir toujours les personnes qui sont devant nous. Ce n'est pas des chiffres, ce sont des personnes humaines qui ont des droits et qui ont des besoins. Les États-Unis représentent un pays riche et nous avons beaucoup de possibilités d'aider les autres et il faut le faire.
propos recueillis par Augustine Asta. Défendre la vie humaine, mais aussi l'appel au dialogue et surtout annoncer l'évangile au Vatican. Voici les principales lignes conductrices que Léon XIV a indiquées aux évêques italiens rencontrés ce matin. Le pape les a également invités à avancer dans la synodalité en regardant vers l'avenir sans peur. Et puis, autre nouvelle du pape, Léon XIV a décidé de renouer avec une tradition de plus de 400 ans. Le Saint-Père prendra quelques jours de repos dans la villa pontificale de Castel Gandolfo, dans la banlieue et les hauteurs de Rome. Il y sera du 6 au 20 juillet prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée.